France Musique.
Bonsoir Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel, on vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage nocturne. France Musique.
Nous recevrons dans ce tapage nocturne Jean Schwartz, compositeur et ethnomusicologue, à qui l'on doit des créations pour le cinéma, notamment pour des films de Jean-Luc Godard, Michel Deville ou Alain Resnais. Percussionniste de formation, il cultive avec dextérité la passerelle entre le jazz et la musique électroacoustique. Mais ouvrons cette émission avec notre page phonographique et un disque de Typographica, un ensemble japonais qui mélange jazz, musique expérimentale et rock progressif, un groupe formé en 1986 par Tsuneo Imaori. Influencé par les Models of Invention de Frank Zappa, Typographica expérimente le mélange de sons concrets et d'improvisation et un jeu assez unique sur le glissement des tempi, comme en témoigne Floating Opera, titre éponyme de l'album publié en 1997.
Thank you.
Floating Opera, extrait de l'album éponyme proposé par le groupe Typographica, publié en 1997. Alors François, avec quel disque venez-vous aujourd'hui ?
Eh bien avec une nouveauté que l'on doit au prolifique label rennais Shelter Press, qui vient de sortir le nouveau disque du New-Yorkais Ben Vaida, Damage the Particulates. Ce disque documente la jonction entre deux projets compositionnels ambitieux, Damage the Particulates donc, élaboré entre 2012 et 2016, et Reducing the Tempo to Zero, nouvelle composition protéiforme où Vaida retourne à une exploration des processus de longue durée. La pièce entière dure 4 heures et questionne, dans le sillage de Morton Feldman, la forme musicale elle-même, en la rendant difficilement appréhendable en tant qu'entité finie, dotée d'une structure objective. Vaida invite alors l'auditeur à créer la structure de la pièce au travers de son expérience d'écoute effective. Réduire le tempo à zéro, c'est aussi ouvrir la musique à l'élasticité des temps vécus. Ben Vaida, Reducing the Tempo to Zero.
Thank you.
nous venons d'écouter un extrait de Ben Vaida, Reducing the Tempo to Zero, issu de l'album Damage Particulates, paru sur le label rennais Shelter Press.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
Puisant dans ses racines jazz, dans ses activités ethnomusicologiques et dans l'environnement du service de la recherche et du GRM, Jean Schwartz a mené une carrière de compositeur original, faisant feu de tout bois pour créer des musiques acousmatiques destinées aux concerts et aux disques, mais également en collaborant pour la danse, avec Caroline Carlson notamment, ou pour le cinéma, s'insérant dans l'univers de grands réalisateurs comme Alain René ou Jean-Luc Godard. Nous avons rencontré Jean Schwartz à l'occasion de la création de sa nouvelle œuvre, Sinfonietta, qu'il présenta le 8 octobre dernier lors du concert de la saison multiphonie de l'INAGRM à la MP2A, Auditorium Saint-Germain. Jean Schwartz est l'invité de ce tapage nocturne.
Thank you.
Jean Schwartz, bonsoir. Vous avez eu une formation classique, puis vous vous êtes tourné vers le jazz. Comment avez-vous découvert cette musique ?
Je l'ai découvert un peu par hasard, parce que j'étais invité à un concert et je connaissais rien du tout au jazz. J'avais même, disons pas du mépris, mais enfin une ignorance totale, ça ne m'intéressait pas. Et j'étais invité à un concert, et à la suite de ce concert, c'était une révélation. Du coup, il y avait Miles Davis, Oscar Peterson, et je crois que maintenant, Jazz Quartet, une tournée du Jazz à la Philharmonique. Je me suis empressé d'acheter deux ou trois disques le lendemain. Et puis là, c'est une passion qui m'a pas quitté, quoi, et qui perdure.
Vous avez été ingénieur CNRS en ethnomusicologie au Musée de l'Homme. Comment est-ce arrivé ? Comment avez-vous emprunté ce chemin-là ?
C'est arrivé parce que bon, j'avais connu la recherche. Je traînais un peu mes guêtres à la recherche. J'avais quand même quelques amis. Mais il n'y avait pas de travail pour moi. Et le patron du département de l'ethnomusicologie, Gilbert Rouget, avait envoyé une lettre à Pierre Schaeffer, qui dirigeait la recherche. Et je vais faire la répercuter à Belle et à Rebelle. Et ils m'ont dit, écoute, il y aura peut-être un poste intéressant pour toi. Donc ça, je suis rentré comme ça.
Thank you.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne, France Musique.
Vous avez également, en parallèle, passé 30 ans au GRM. Comment êtes-vous arrivé à la musique concrète ?
Alors, je suis arrivé à la musique concrète, c'était très simple, parce que j'ai commencé une toute petite carrière de batteur. Parce que bon, étant donné que j'ai découvert le jazz, j'avais quoi, des 17 ans, 18 ans, j'ai pas fait de piano, je connaissais assez peu de choses. J'avais une culture musicale, mais le solfège, tout ça, est nul. Donc je me suis dit, peut-être le plus rapide, ce serait de faire de la batterie, d'apprendre la batterie. Et j'ai eu la chance, d'après moult persuasion, de travailler avec Kenny Clark. J'étais son premier élève, qui était un grand batteur américain, qui vivait à Paris. Et j'ai fait un petit peu le métier pendant 2-3 ans, tout en suivant mes études d'ingénieur. Et puis un jour, j'ai entendu Tony Williams, le batteur de Miles Davis, qui avait 16 ans, qui jouait le feu de Dieu. Bon, il y avait Elvin Jones aussi, et je me suis dit, où je suis le meilleur batteur européen, où je laisse tomber. Et au même moment, j'ai découvert la recherche par un petit 45 tours, un tout petit disque de 17 cm, où il y avait des pièces de Schaeffer, Philippot, Xenakis. Et là, j'ai eu une seconde révélation. Et je me suis dit, je ferais peut-être mieux de faire ça, enfin de me lancer là-dedans, dans cette recherche. Parce que déjà, moi, je bricolais les sons. Chez moi, je copiais les disques sur magnétophone, je faisais même souvent forcé du montage, etc. J'étais vraiment intéressé déjà par la technique, tout ce qui touchait le son. Je poussais des cris en entendant les vinyles qui saturaient, le son déformé, qui pleuraient, les craquements, etc.
Vous êtes allé taper à la porte du service de la recherche ?
Je suis allé taper à la porte et effectivement, j'ai fait un stage. J'ai même eu, tout en étant à l'armée, j'ai fait un petit contrat. À 5h30, j'arrivais dans les studios du GRM pour faire une petite recherche. Mais il n'y avait pas de véritable boulot. C'est pour ça que quand il y a eu la demande de Rouget auprès de Schaeffer, j'ai pris le poste. Mais bon, c'était un peu... c'était un choix de laisser tomber le jazz. Mais enfin, finalement, le jazz, on ne l'a jamais tombé. Et on peut dire vraiment qu'il coule dans mes veines. Et ma culture classique aussi. Et mon amour électroacoustique aussi. Donc, tout ça, en fait, c'est la même chose, au fond.
Thank you.
Comment ces diverses influences, le jazz, l'ethnomusicologie, ont formé votre électroacoustique?
D'abord, j'ai attendu un certain temps. J'avais fait pas mal de musique publicitaire. J'avais monté un petit studio avec l'assistant de Parmi de Génie, Philippe Betz. On avait monté un studio, première publicité, on a premier magnétophone, première invoque, deuxième pub, deuxième invoque, etc. Et sur le marché, on n'était pas les seuls, mais enfin presque, voilà, dans la fin des années 60. Et je me suis dit, bon, je suis toujours pas prêt pour vraiment faire une musique électroacoustique. Enfin, je me sentais pas encore complètement compositeur. Et j'étais préoccupé par ma culture à la fois du jazz et la musique classique. Je suis très wagnérien. Bon, la musique contemporaine aussi. Hein. Et puis finalement, un jour, c'est encore mon bon ami Rabel qui m'a dit, écoute, la radio, il y a un concert, on s'en va pendant 4 jours. On a le week-end à la Pentecôte, on est invité, je ne sais pas où. Profite des studios, il n'y aura personne. Et là, j'allais dans les studios et j'ai fait des prises de son jour et nuit, etc., avec le nouveau synthétiseur, etc. Et ensuite, j'ai travaillé là-dessus et j'ai fait ma première pièce qui n'était pas trop mal accueillie. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Mais il faut dire que j'oublie jamais le jazz, même dans mes pièces, j'essaye, bon, on ne peut pas dire que ça swing, hein, mais essayer qu'on ne s'ennuie pas, essayer que ça chante aussi un peu, que, bon, puis, enfin voilà quoi. Et, je ne peux pas renier non plus ma profonde culture.
Vous avez aussi composé pour le cinéma, pour la danse. Est-ce que cela vous a permis d'explorer d'autres facettes de votre musique ?
D'autres facettes... Oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de rencontrer des... Presque parce que des stars, hein, parce que les Godard, les René, les Carlson, les Bartabas sont des stars, avec lesquels ça s'est toujours très très bien passé. Mais dès qu'on travaille pour un film, qu'on travaille enfin, pour une chorégraphie, on est au service d'un spectacle, d'une chorégraphie. Et le patron, c'est le chorégraphe, c'est le metteur en scène. Hein. Donc il faut être très humble, il faut accepter de refaire et de d'aller dans la direction souhaitée. Hein. Bien qu'on puisse faire, bien sûr, tout un tas de propositions. Donc... J'utilisais surtout mon savoir-faire. J'essayais de leur faire dire, non pas ce qu'ils voulaient, mais ce qu'ils ne voulaient pas. Parce que souvent on se lance dans quelque chose et puis on tombe complètement à côté. Dans les références, en général, ça s'est assez bien passé. Et ça n'a pas toujours été très électroacoustique, c'était mixte. Voilà.
Pensez-vous avoir un intérêt particulier pour la synthèse sonore dans votre musique ?
Oui, ma première pièce, Herda, c'était bizarre, c'est sûr. Moi, j'en ai fait d'autres quand même plus... Et plus de son concret, quand même. Enfin, puis c'est un mélange. C'était bizarre, c'est... Je dis pas c'est une facilité, mais enfin, on a les... On a quand même des sons nouveaux qui sont pas très riches, donc on essaie d'enrichir. Et puis les autres sons, il faut les fabriquer, j'en ai fabriqué beaucoup. Mais je pense pas de plus... Il y a eu l'époque du 123, du studio numérique. Mais je m'en suis servi pas tellement pour... bien sûr, faire quelques sons de synthèse, mais plutôt pour les traitements, les ralentissements, les choses comme ça. Surtout dans une pièce que j'ai fait avec un chanteur, j'ai beaucoup manipulé la voix que j'avais enregistrée avant... Et bon, qu'on reconnaît pas comme une voix, bien sûr. Mais voilà, c'est. Mais bon, moi, je suis. Tout est bon, hein. Il n'y a pas de.
Pouvez-vous nous parler de votre dernière création, Sinfonietta?
Alors là, c'est une... c'est encore une expérience, parce que ce que j'essaie à chaque fois, mais c'est pas facile, c'est de faire quelque chose de nouveau, qui ressemble pas trop à ce que j'ai fait. Donc, on tombe complètement à côté, mais essayer de pas faire non plus comme, je dis pas font les petits copains, mais de pas avoir un son d'une époque ou de... Donc là, j'avais jamais, enfin, je l'avais fait un peu dans une pièce ancienne, qui s'appelait Symphonie, mais d'avoir des familles d'instruments un petit peu, et de composer comme, je dis pas pour un orchestre, hein, mais pour un petit ensemble, où j'ai 12 ou 13 instruments ou séquences instrumentales, et je me suis limité à ces séquences et, qui sont absurdes, sauf pendant 30 secondes, qui sont un peu manipulées, mais sinon elles sont les mêmes du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment un exercice de composition à partir de ces 13 séquences de base. Le titre, c'est Sinfonietta. Bon, c'est par rapport à la symphonie que j'ai faite. Pas du tout par rapport... Enfin, c'est peut-être aussi un hommage à Berio. Mais il y a des sons de synthèse, il y a quelques sons d'origine, enfin de mouvements de cordes classiques, il y a un petit peu de tout.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était Alexandre Bazin, attaché de production Soizic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Il est temps maintenant de retrouver Anne Montaron et son Alain Brévé.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.